Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
12 scandaleuses qui ont changé l'histoire. C'est le titre de l'ouvrage de Marc Fourny qui paraît chez Pygmalion. Parmi ces 12 femmes à scandale, Franck Ferrand a choisi la plus sulfureuse.
La
bonjour.
Pire.
Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Messaline est en effet l'incarnation de toutes les débauches, de tous les excès de l'Empire romain. À juste titre, c'est la question que je poserai à mes invités tout à l'heure. On lui a peut-être beaucoup prêté pour tout vous dire, mais vous allez voir que tout de même, sa vie est pour le moins épicée. Pour en parler, j'ai donc convié l'auteur du livre, Marc Fourny, et la spécialiste des grandes dames du passé en général et de l'Antiquité en particulier, Joëlle Chevet.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Chantal sur l'origine du nom d'Acadie donné aux provinces maritimes du Canada.
Justement, nous parlions du Canada il y a un instant. Eh bien, voilà, je répondrai volontiers à Chantal. En attendant, l'heure est au stupre, à la luxure. La sieste promet d'être crapuleuse.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Pour vous raconter la vie de Messaline, j'avais le choix. Soit puiser dans la chronique antique, et alors là, quand je dis que c'est salé, poivré, épicé, tout ce que vous voulez, on va vraiment très loin avec certains, notamment avec Juvénal, et on y viendra dans un instant. Ou bien en appeler aux historiens plus récents. Et alors là, évidemment, eux ont plutôt tendance à tempérer un peu l'ardeur des anciens et à nous dire que cette Messaline a surtout été l'objet de nombreux ragots. Vous me permettrez quand même de garder la première version et de vous raconter un peu ce qu'on a dit d'elle avant de voir ce qu'il faut en penser. Elle était d'abord, c'est ce qu'il faut bien sentir, on est dans la, vraiment dans l'écume, dans le sommet de la société romaine, puisque cette Messaline est l'épouse d'un certain Tiberius Clausus Drusus, qui, à 50 ans, devient empereur. C'est lui l'empereur Claude. Lui a 50 ans, donc quand il règne, il a cette épouse. Alors d'abord, faut vous dire qui c'est, Claude, on y reviendra d'ailleurs, mais c'est Suétone qui le décrivait comme un avorton simplement embauché par la nature. Certains disent qu'il était un oisif, un incapable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas tellement aidé. Il est bourré de tics, extrêmement mal à l'aise en public. Il est bègue, le pauvre empereur. C'est toujours embêtant lorsqu'on exerce un métier comme celui-là, bien sûr. Et son épouse, cette fameuse Messaline, qui est sa cousine au passage, est de 34 ans sa cadette. Évidemment, ça vous donne tout de suite l'ambiance générale. Qui est-elle, cette Messaline? Elle est une descendante de Marc-Antoine et d'Octavie. Ses parents, Marcus Valerius, Messala Barbatus et Domitia Lepida, sont des gens qui appartiennent alors vraiment à ce qu'il y a de plus ancien dans la classe patricienne, même s'ils sont complètement ruinés. Ils ont bien fait attention néanmoins à lui prodiguer une éducation digne de son rang, digne aussi de l'extraordinaire nature qu'ils n'ont pu que deviner en leur fille, car elle est magnifique, Messaline. Elle est d'abord un corps splendide, des traits parfaitement doux, en dépit d'un menton qu'on dit volontaire, de grands, très grands yeux avec ce regard intense qui frappe dès qu'on l'aperçoit, une magnifique chevelure noire, longue, ondulée. Elle accorde beaucoup d'attention à son apparence. Elle a bien l'intention de séduire tout ce qui passe, si je puis dire. Vous savez, ça fait partie de ces séductrices extraordinaires. Séductrice et par ailleurs volontiers séduite elle-même et séduite partout, là encore, et par la nature et par la culture. Elle aime le luxe, elle aime, on pourrait dire tout simplement qu'on est en face d'une nature égotique. Elle aime par-dessus tout le pouvoir, mais ça, vous allez voir, c'est presque une autre histoire. Son cousin, est l'oncle de l'empereur Caligula. Donc au moment où elle l'épouse, il n'est encore que l'oncle de Caligula. Mais on se dit que s'il arrivait malheur à Caligula, et quand on voit l'énergumène, ça pourrait bien arriver effectivement. Il est arrivé malheur à bien des empereurs romains, je ne vous apprends rien. On se dit que l'oncle pourrait peut-être prendre la suite. Il serait en tout cas le mieux placé pour le faire. En attendant, l'empereur accorde à son oncle quelques charges administratives, ce qui fait qu'on vit plus que très confortablement chez appelé Claude, si je puis dire, avec le concours de sa mère, Messaline. Il faut vous dire que la mère est aussi ambitieuse, sinon plus que la fille. Messaline va charmer Claude, un homme tout à fait sensible à la séduction, passionné par les femmes, et en 38 ou 39 de notre ère, hein, donc bien entendu, après deux mariages ratés, il a répudié sa première femme pour débauche, décidément, et il a invoqué une incompatibilité de caractère pour se défaire de la deuxième. En 38 ou 39, donc, il se décide à épouser sa très jeune, très belle, très séduisante cousine. Vous avez fait le calcul, elle a 14 ans à l'époque, Messaline. Alors, j'ai eu l'occasion ici de vous raconter Caligula, personnage très intéressant du reste, auquel on a beaucoup prêté. Là encore, c'est le tyran, dans toute sa splendeur, dans toute son horreur, qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne, aurait-il dit. En janvier 41, arrive ce que tout le monde attendait depuis longtemps. L'empereur vient de sortir d'un spectacle, il s'apprête à aller dîner, et là, il est assassiné par des officiers de sa propre garde, de la garde prétorienne. 30 coups de glaive dans ce corps de 28 ans, puisqu'il était tout jeune, Caligula. Claude se trouve à ce moment-là au palais, il entend les hurlements du mourant, les cris de ralliement des conjurés, il se précipite derrière une tenture pour échapper à ce qu'il croit être la folie meurtrière de soldats tournés contre sa famille. L'un d'eux aperçoit ses pieds derrière la tenture, on tire le rideau, on découvre l'oncle du despote et on lui dit « Ne crains rien, nous te ferons empereur !» Donc il avait eu peut-être plus peur que mal, Claude. Il finit par revêtir la pourpre impériale, je vous l'ai dit, à 50 ans. Il devient, vous imaginez, l'empereur romain. On est en plus dans ce début, dans cet apogée de l'Empire, une période sur laquelle on va revenir tout à l'heure, tout à fait extraordinaire. C'est le sommet de la puissance romaine à cette époque-là. Alors, sa belle épouse, entre-temps, lui avait donné deux enfants, une fille, Octavie, et un héritier, dont j'espère n'avoir pas besoin de vous donner le nom, car si vous avez un peu lu ou étudié Racine pendant vos études, vous vous rappelez quand même que le fils de Messaline, c'est Britannicus, évidemment. À 16 ans, donc, Messaline devient impératrice, la femme de l'homme le plus puissant d'Occident, la mère de son successeur. L'Empire romain, je vous l'ai dit, est au sommet. Il faut imaginer un décor plein de marbres et d'or, les esclaves en quantité, un luxe dans ce milieu impérial tout à fait extraordinaire. Voilà ce que nous dit Marc Fourny dans ces 12 scandaleuses qui ont changé l'histoire. Pour la jeune mère, un seul but, celui de protéger son clan, et permettre à Britannicus de régner sur l'Empire. Elle sait combien son fils reste sa meilleure assurance vie pour conserver sa tête le plus longtemps possible, à condition que les rivaux lui laissent le temps de monter sur le trône. Et oui, car beaucoup de marbre et d'or, certes, mais pas mal de sang est allé sur ce marbre et sur ses ors. Elle se méfie, Messaline, elle se méfie particulièrement d'Agrippine et d'une certaine Julia Livilla. En fait, ces deux, Agrippine et Julia, sont les deux sœurs de Caligula. Alors, on les avait envoyées dans un premier temps en exil et puis, finalement, on les a fait revenir à Rome. Oh, était-ce une très bonne idée ?
On écoutait l'extrait de la bande originale du film Ben Hur. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la sulfureuse impératrice Messaline.
Qui règne à Rome ? Est-ce Claude, l'empereur ? Ne serait-ce pas Messaline, son épouse ? En vérité, on est en présence d'un véritable cerveau politique. Ça, c'est assez intéressant. Très bien entouré, du reste. L'impératrice dispose de ce qu'on appelle son cabinet noir. Elle bénéficie du soutien d'un certain nombre d'affranchis. Vous savez, ces esclaves affranchis qui, après avoir été qui précepteurs, qui administrateurs, etc., finissent par occuper des postes clés dans l'Empire. Et à la tête de ce petit cabinet noir, de ce gouvernement de l'ombre, si je puis dire, un certain Narcisse. L'empereur accorde une confiance absolue à toute cette petite bande. Il faut dire que ces gens-là sont infiniment plus dociles, pour ne pas dire plus serviles que les sénateurs, bien entendu. On prête à Julia Livia, vous savez, cette sœur de Caligula, on lui prête une liaison avec le philosophe Sénèque, qui lui-même était déjà dans le collimateur de l'impératrice, puisqu'il est le grand défenseur d'une certaine morale héritée de la République. Vous savez qu'il remet en cause le comportement dépravé de la haute société romaine en général, et tout particulièrement celui de l'impératrice, bien entendu. Ils sont condamnés tous deux à l'exil. Et l'impératrice va comme ça se débarrasser de tous ceux qu'elle considère comme dangereux. Ce sont les fameuses purges de Messaline. Toute personne, j'allais dire dont la tête dépasse, toute personne susceptible de gêner se trouve écartée. On craint beaucoup le complot. Il faut dire qu'encore une fois, on a quelques raisons de le craindre. Toutes les femmes trop aimables avec l'empereur sont très vite éloignées de la cour. Tous les conseillers qui se montreraient trop habiles ou trop pertinents doivent craindre également l'exil. Les plus chanceux sont condamnés à l'exil, les autres carrément à la mort, disons-le. Après Julia Livia, c'est son beau-père qui va être victime de l'ambition invraisemblable qu'il avait manifestée. Appius Silanus était un ancien consul, il venait d'épouser la mère de Messaline, c'est dangereux ça. Le patricien est devenu très proche de l'empereur, il est extrêmement bien en cours, si je puis dire. L'empereur écoute ses conseils, ça devient dangereux, il est le nouveau mari de la mère. Il est le conseiller écouté du mari. Non, ça, Messaline ne va pas le laisser faire. Alors, dans un premier temps, elle le séduit, bien entendu. Elle utilise beaucoup le sexe comme un instrument politique, disons-le. Le pauvre homme la voit venir, si je puis dire. Il lui refuse ses faveurs et à ce moment-là, c'est le début des représailles. Messaline va l'accuser d'avoir fomenté un complot contre l'empereur et le pauvre homme est condamné à mort. Je me disais en préparant tout ça que finalement, Messaline est un peu l'incarnation de ce qu'on appelle nous les sept péchés capitaux. Vous savez, en même temps, quand vous laissez l'ego prendre le dessus dans votre personnalité, il est normal que les péchés apparaissent d'une certaine manière. Mais alors elle est là tout. D'abord, elle se met en colère à longueur de temps. Elle est d'une jalousie que vous aurez comprise. Elle est totalement d'une jalousie, disons, sordide. L'impératrice, par ailleurs, se livre à la luxure. Elle a toutes sortes d'amants. Alors, on lui prête comme amants alors des sénateurs, bien entendu, mais aussi des affranchis et même des esclaves. Et même parmi les esclaves, ce qu'il y a de plus indigne, des gladiateurs, dit-on. Personne ne lui résiste. Se refuser à Messaline, ça reviendrait à au mieux mettre un terme à sa carrière, au pire signer son arrêt de mort. Elle reçoit tout ce petit monde dans une aile du palais qui lui est réservée, où on organise des orgies absolument incroyables. Elle est très possessive envers ses amants. Et si elle voit une femme rôder autour d'eux, inutile de vous dire qu'alors là, c'est encore pire. C'est d'ailleurs le cas d'une des plus belles femmes de Rome, qui était la maîtresse d'un mime célèbre, Mnester. Cette femme, c'était Poppée. Mnester a le malheur, si je puis dire, de plaire à l'impératrice. D'ailleurs, elle lui confie des pouvoirs absolument invraisemblables. Et Messaline est folle de jalousie. Elle va faire poursuivre Poppée pour adultère. Elle est constamment harcelée, si bien que la pauvre Poppée préfère finalement se suicider parce qu'elle se dit que le sort qui lui est réservé est sans doute tellement terrible qu'il vaut mieux encore décider soi-même de sa mort. Alors, Évidemment, vous aurez compris que dans tout ce que je vous raconte là, il y a une part de légende, évidemment. Je vois Joël Chevet qui se dit « Mon Dieu, il va falloir encore rattraper toutes ces erreurs. Il va encore falloir redresser toutes ces idées fausses. » Mais c'est vrai que ce sont largement les chroniqueurs du IIe siècle qui nous ont influencés. Voilà ce qu'écrit par exemple Juvénal dans ses satires. Moi, je ne fais que citer Juvénal, Joël. « Dès qu'elle sentait son mari endormi, préférant sans vergogne une couchette à son lit d'apparat, la pute impériale, pardon, hein, mais je lis Juvénal, moi, s'encapuchonnait et s'évanouissait dans la nuit sans autre compagnie qu'une servante. Camouflant ses cheveux noirs sous une perruque blonde, elle gagnait un bordel moite aux rideaux rapiécés où un box lui était affecté et elle s'y exhibait nue, les seins pris dans une résille d'or sous un pseudonyme affiché, Lysiska, et qui entrait se faisait payer, et proposait la matrice qui t'a porté Britannicus, parce qu'évidemment Juvénal est là pour démolir, si je puis dire, Britannicus. Elle faisait goûter ses caresses à qui entrait, se faisait payer sa passe, et quand le tenancier libérait enfin les filles, elle s'en allait tristement, n'ayant pu qu'être la dernière à fermer boutique. Bon. Évidemment, je ne pense pas qu'on puisse croire de telles outrances, de tels délires. Mais après tout, ce sont des délires qui ont eu les faveurs d'un grand nombre d'historiens par la suite. Alors, si l'on écoute Dion Cassius, alors là, Dion Cassius, c'est pas Juvénal. C'est tellement plus sérieux. Voilà ce que nous dit Dion Cassius. Messaline vivait dans le désordre. C'est nettement mieux dit, ça. Et contraignait les autres femmes à se livrer elles-mêmes à la débauche. Plusieurs durent, à son instigation, commettre l'adultère dans le palais même, en présence de leur mari et sous leurs propres yeux. Elle faisait coucher auprès de Claude de jeunes servantes et détournait, soit par des bienfaits, soit par des supplices, ceux qui auraient pu découvrir ses débauches.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Les mœurs dépravées de la troisième épouse de l'empereur romain Claude sont au centre de cœur de l'histoire cet après-midi. Franck Ferrand, vous nous racontez la vie de Messaline.
Vous imaginez que dans tout l'Empire, on ne parle plus que de cela. La fureur de Messaline, la cruauté de Messaline, etc. Son mari fait comme s'il ignorait ses frasques. Est-ce qu'il les ignore vraiment ou est-ce qu'il veut les ignorer? Vous aurez compris, avec le comportement que j'ai eu l'occasion déjà de vous décrire, quelle a été l'attitude de Claude en vérité. Pendant ce temps, elle fait régner la terreur sur Rome. Alors, généralement, Messaline se lasse très vite des hommes qui ont eu le malheur, si je puis dire, de tomber dans ses raies. Mais il va y avoir une exception. Et cette exception, elle est pour le beau consul Caius Silius. Son épouse, Junia Silana, a vite compris que quelque chose était en train de naître de très fort entre Messaline et son mari. Elle va laisser le champ libre à sa rivale. Et on est là en 48 de notre ère. C'est le début d'une folle passion de Messaline pour ce Caius Silius, un amour voisin de la frénésie, nous dit Tacite. Messaline ne quitte plus la maison de son amant. D'ailleurs, elle y a fait porter le plus clair de son mobilier, sa vaisselle d'or, etc. Ses propres esclaves vivent maintenant chez lui. L'idée leur vient de se marier et même Silius voudrait adopter Britannicus. Vous voyez qu'on va vraiment très loin. Mais il faut imaginer un empereur très faible et une impératrice toute puissante pour comprendre où, comment on a pu en arriver là. Messaline va néanmoins devoir ménager un tout petit peu la fierté de son mari. Elle sait que son empereur d'époux est particulièrement sensible au présage. C'est un homme très, très superstitieux. Et donc, elle lui dit qu'elle a reçu une prédiction très certaine qui ferait peser un grave danger sur son mari. Elle dit « On m'a dit que mon mari allait subir des foudres, etc. » Alors, lui dit-elle, « Il y aurait peut-être un moyen de détourner le sort. Ce serait que j'épouse quelqu'un d'autre et comme ça, le malheur ne s'abattrait pas sur toi. » Et Claude va consentir à cette espèce d'arrangement invraisemblable. De leur côté, il faut vous dire que les affranchis se sont retournés quand même. Ils n'en peuvent plus de la tyrannie de cette femme. Personne n'est dupe, évidemment, autour d'elle. Silius est devenu leur ennemi et ils savent très bien que si c'est lui qui finit par devenir le maître, alors ils n'ont plus aucun avenir. Je vous dis ça pour que vous compreniez qu'une conjuration est en train de naître dans l'ombre. Claude doit se rendre à Ostie, vous savez, le port antique de Rome. On est à 35 km environ à l'ouest de Rome pour assister à une cérémonie. Et on en profite pour sceller la fameuse union, un mariage en grande pompe, un nombre incroyable de convives, un banquet dont je vous laisse imaginer l'allure qu'il peut prendre. L'empereur est averti, bien entendu. En tout cas, disons pour être plus exact, que son entourage le plus proche est averti. Narcisse et un certain nombre de ses complices se disent qu'il est grand temps de profiter de la situation pour essayer de faire tomber Messaline. Donc Narcisse va se rendre lui-même à Ostie. Il trouve l'empereur Claude. Il lui raconte ce qui est en train de se passer. Et Claude, disons-le, est désespéré. Il comprend que ce qui va se passer, c'est la fin pour lui. Il va perdre son trône et Messaline probablement ne fera preuve à son égard d'aucune clémence. Alors il faut pour une fois que Claude fasse preuve d'un peu de courage. Il reprend le chemin de Rome et il espère pouvoir retourner la situation. Pendant ce temps-là, Messaline et son nouvel époux ont organisé une nouvelle fête. Alors c'est un simulacre de vendange, je vous laisse les détails. Tacite nous raconte que des femmes vêtues de peau dansaient comme des bacchantes dans leurs sacrifices ou leurs délires. Et elle-même, donc Messaline, la chevelure flottante, secouant un tirse et près d'elle Silius couronné de lierre, chaussé de cothurnes, agitait la tête au bruit d'un cœur lascif. Bon, est-ce qu'il faut croire Tacite? C'est toujours la même chose, mais on voit très bien la scène en tout cas. Claude va arriver pour troubler cette fête. On l'aperçoit de loin. Il est accompagné de toute une armée. Il a tous les centurions autour de lui. La foule se disperse. On quitte la villa comme on peut. Les plus lents sont rattrapés, enchaînés. Silius est arrêté. Il est mis à mort. Quant à Messaline, elle se dit qu'elle va arriver à calmer la fureur de son mari. Alors, elle se rend à sa rencontre avec ses deux enfants, en lui disant « Mais je suis la mère de tes enfants, la mère !» des enfants de l'empereur. Claude lui accorde le bénéfice du doute. À mon avis, il n'a pas trop d'illusions. Mais il préfère se laisser une nuit de réflexion. Vous aurez bien compris que Claude n'est pas l'homme des décisions hâtives. Dans la nuit, Narcisse se dit que c'est mort, que s'il laisse le soleil se relever sur cette nuit, alors Messaline va s'en sortir. Et si elle s'en sort, c'est lui, bien entendu, et tous ses complices qui vont passer de vie à trépas. Et là, il se dit qu'il faut vraiment prendre les devants. Il va la trouver dans les jardins de Lucullus, où elle s'était cachée avec sa mère, vous savez, sa fameuse mère. Alors, c'est la mère, d'ailleurs, qui exhorte sa fille à se rendre, etc. La jeune femme s'effondre à terre. Elle ne trouve pas la force de se suicider, parce que ça aurait pu être la solution, bien entendu. Et au moment où elle s'y résout, elle met le glaive à sa gorge, elle est prise de court par un garde qui est là et qui la transperce d'un coup d'épée. Quand on va annoncer à Claude la mort de sa femme, quelle sera sa réaction d'après vous? Eh bien, aucune réaction. Il reste, si j'ose dire, pour un homme qui a été statufié un grand nombre de fois, il reste de marbre. Il continue son repas, tranquillement. Il demande même qu'on lui reserve du vin. Bonjour Joël Chevet, bonjour Marc Fourny. Nous avons quand même pas mal de points à éclaircir concernant cette extraordinaire Messaline.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, c'était un extrait de l'indicatif de la série télé Rome. Au cœur de l'histoire de Messaline, celle qui incarnait tous les excès de l'Empire romain. Vos invités, Franck Ferrand, la journaliste à Historia, Joël Chevet, historienne spécialiste de l'histoire des femmes, et le journaliste au Point et historien Marc Fourny, auteur du livre « 12 scandaleuses qui ont changé l'histoire » paru en mars aux éditions Pygmalion.
Il faut dire que c'est la première des 12 scandaleuses, Marc Fourny, cette Messaline. La première pour des raisons chronologiques, mais j'ai presque envie de dire aussi pour des raisons de tempérament. C'est pas n'importe qui, hein.
Oui, et puis en effet, c'est une personne qui va tellement marquer la littérature, le cinéma par la suite, que c'est finalement le symbole du stup, comme vous l'avez dit, et du scandale absolu, en quelque sorte.
Elle est restée, c'est devenu effectivement un emblème d'une certaine manière. Alors, quand on parle de Messaline, le grand problème, c'est de savoir où puiser ces renseignements. Dans quelles sources ? Vous avez les sources antiques, vous avez des sources plus récentes. Les sources antiques sont nettement plus amusantes quand même.
Les sources antiques sont amusantes, mais sont-elles véridiques ? Parce que voilà. C'est un conglomérat, c'est un agglomérat d'anecdotes, d'historiettes, qui ont été quand même rédigées par la suite, parfois 50, 100 ou 200 ans plus tard. Et évidemment, on avait tout intérêt à salir Messaline, puisque les dynasties suivantes voulaient... évidemment montrer du doigt ceux qui avaient précédé.
Alors moi j'ai cité Dion Cassius, Tacite pas mal, Juvénal même, et j'ai vu que là ça faisait réagir évidemment, parce que le moins qu'on puisse dire c'est que le texte est salé. Il y aurait aussi Suétone bien entendu, et puis Pline l'Ancien, Joël Chevet.
Bah, les sources principales, en fait, qui sont là pour le coup les seules que nous ayons, hein, en tout cas sur lesquelles on puisse travailler, qui nous disent quelque chose sur Messaline, c'est évidemment Tacite. Sinon, qu'il ne faut pas oublier que...
Alors, Tacite, c'est l'auteur des Annales, il faut dire en deux mots de quoi il s'agit.
Qu'est-ce qui nous reste concernant Messaline ? Très peu de choses, puisque le livre 11 parle de la dernière année de Messaline, donc... rien sur ses mœurs, mais plutôt sur la femme politique, et encore, il faudrait apporter des nuances, et surtout sur sa mort, bien sûr. Suétone, évidemment, qui là sont des quasi-contemporains.
Mais c'est un ennemi personnel.
Mais ennemi personnel, bien entendu. Les autres sont plus tardifs. Reste que ce qui compte surtout, c'est la conception que ces gens avaient de l'histoire. Et pour Tacite en particulier, qui avait une conception de l'histoire qui était purement morale, le problème n'était pas de dire la vérité, comme nous pourrions le supposer aujourd'hui, mais de construire ce qu'on appelait à l'époque des exemplats, c'est-à-dire des modèles, donnés donc en modèle pour le coup.
Donc presque des archétypes, donc des mythes
tout
quand
à
même.
Fait. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ces gens-là ont ensuite participé au règne suivant, et en particulier au règne de Trajan. Trajan qui est quand même le grand empereur. Romain, et que donc il s'agissait à travers le personnage de Messaline, non pas de discréditer Messaline, mais de discréditer Claude, dont le portrait est également totalement caricatural. également. Donc là, il faut bien remettre cela, en effet, dans le contexte de ce qu'était la conception de l'histoire.
On pourrait presque parler, à propos de ces chroniques, de caricature d'ailleurs, hein, puisque le style lui-même est celui de satire. Alors, puisque je parle de satire, j'ai cité un tout petit peu Juvénal. Alors c'est salé, hein.
Oui, et là on est déjà dans une période très postérieure,
plus tardive, oui.
Et où là on retrouve tous les stéréotypes en plus sur les femmes, et les femmes en particulier dès qu'elles sont dans le champ politique. On en parlait.
Et on est dans l'exagération totale.
Et on est dans l'exagération.
C'est le voici de l'époque.
Évidemment, total.
Non, mais c'est vrai.
Mais
donc...
ça remonte à très loin, tout ça.
Elle sert des
Il faut revenir aux premiers auteurs grecs et sur la conception qu'on avait de la femme, qu'on
et
ne
voilà.
retrouve pas du
Alors
tout chez Homère.
Tout à l'heure. Si vous le voulez, ce que je vous propose, vers la fin de l'émission, on va revenir sur la place, justement, de la femme, sur la façon dont on gouvernait l'Empire, sur le rôle que pouvaient avoir les impératrices, etc. On va revenir également, et ça me paraît très intéressant d'en profiter, sur cette période passionnante qui est une période charnière, puisque on est vraiment dans les tout débuts de l'Empire, dans l'esprit des contemporains, la République est encore un souvenir, donc ça c'est intéressant, on va y venir tout à l'heure. Pour continuer sur notre Messaline elle-même, alors, on ne sait pas si elle était aussi débauchée qu'on l'a dit, mais quand même, comme je peux dire, Marc Fourny, il n'y a pas de fumée sans feu.
Oui, non mais évidemment, elle devait être quand même assez débridée dans sa vie sexuelle ou en tout cas dans ses rapports avec les hommes, mais n'oubliez pas qu'elle a 14 ans, vous l'avez dit, elle a 14 ans, c'est
au
une
départ,
femme,
oui.
enfin 14
15 quand
ans,
elle est assassinée,
elle
a une vingtaine.
Hein. On n'en sait rien, il y a des problèmes sur la date de naissance.
Nous ne savons pas la date de sa naissance.
Oui.
Donc là, vraiment, les historiens, s'ils veulent vraiment dire les choses, doivent se contenter de dire qu'ils ne savent pas.
Mais alors pourquoi l'aurait-on rajeunie ?
Elle serait née vers 25, mais nous ne savons d'elle que les 7 ans pendant lesquels elle a été l'épouse de Claude.
On est quand même dans une époque où les mœurs sont passablement libres.
Oui, il commence à se dire.
Oui.
On a eu la République des anciens, c'est-à-dire avec toute cette morale patriarcale, l'homme qui avait droit de vie et de mort sur son épouse et ses enfants, ça allait jusque-là. Et puis là, ça commence vraiment... il faut dire que Rome devient la grande puissance du moment, avec énormément de gens qui viennent de tous les horizons, hein, avec des mœurs qui aussi commencent à s'effriter, donc, et la richesse fait aussi que on est quand même moins dans la rigueur que pouvait avoir la République.
Évidemment, il faudrait peut-être insister sur le couple. Parce que, comme le disait Joël Chevet à l'instant, à travers Messaline, c'est bien sûr Claude qu'on veut atteindre, et même toute la lignée d'ailleurs. Et c'est un binôme, ces deux-là, si je puis dire. Est-ce que Claude était aussi impuissant politiquement? Est-ce qu'il était aussi débile au sens propre qu'on l'a dit? C'est quand même une question, ça.
En tout cas, on peut dire que son règne n'a pas du tout été néfaste pour l'Empire romain. C'est même l'un des règnes qui a été assez brillant. L'Empire s'étend, il va prendre au pied, vous l'avez dit, chez les Britanniques, sur les îles britanniques. C'est pour ça que son fils s'appelle d'ailleurs Britannicus, c'est lié. Il va faire la paix avec les Parthes, donc cette région qui est toujours embêtante est quand même pacifiée, les Germains aussi. Donc on a quand même un empire qui est en paix et qui évidemment s'enrichit considérablement. Donc on a beau dire que c'est quand même quelqu'un qui était sans doute un peu faible, un peu idiot, un peu stupide.
Je crois que sa débilité et physique et mentale n'est pas à mettre
avérée,
en cause.
Oui.
Non,
ah non,
je pense qu'elle est réelle.
Oui.
Elle est réelle. Tout le reste de la famille, Auguste en particulier, on le cache au
on
public.
Cachait Claude, oui.
Alors on dit qu'il était bègue. Il paraît que quand il faisait des discours, au contraire, il ne bégayait plus. Mais au demeurant, il n'était pas autant qu'on l'a dit. Et beaucoup d'historiens ont supposé que la mort de Caligula était sans doute liée à un complot dont il aurait fait partie,
oui,
à l'évidence. Et quand Gratus le découvre derrière ce rideau, qu'il se jette à ses pieds pour qu'on l'épargne, et qu'il le proclame empereur, bon, la scène est évidemment très folklorique, mais il semble qu'il était loin d'être aussi idiot qu'on a bien voulu le dire.
Pierre-Luc nous demande via Twitter, et après la mort de Messaline, qui gouvernait vraiment? Est-ce que c'était Claude ou toujours pas? Comment ça s'est passé par la suite?
Les affranchis.
C'est ce que j'allais dire. Le rôle des affranchis est quand même extrêmement, extrêmement important.
Ce sont des ministres
tout
puissants.
À qui il a confié? Bon, c'est quand même un souverain qui aime bien aussi boire, faire la fête avec ses maîtresses, chose dans lesquelles Messaline n'a eu aucune influence. Il avait deux maîtresses très célèbres, Calpurnia et Cléopâtre, et avec lesquelles, il passait beaucoup de temps. C'est quand même
rien
pas un empereur très
de
présent,
César, hein,
comme l'a été Auguste dans les affaires de l'État. Donc les affranchis gouvernent incontestablement et ça n'est pas hasard s'ils organisent la mort de Messaline.
Hubert, via Facebook, nous demande comment s'organiser la succession de ces empereurs. C'est vrai que ça n'a pas l'air très établi.
Alors justement, on est dans une période, vous l'avez dit Franck, qui est une période de transition. C'est-à-dire celle où l'Empire n'est pas encore vraiment affermi sur le plan successoral. Est-ce qu'on est légitime en étant simplement le fils adoptif ou pas de l'empereur précédent? Et Auguste, justement, a travaillé à asseoir les alliances de cette famille pour pouvoir assurer la reproduction du pouvoir. Mais on est encore dans cette période intermédiaire où il y a énormément de nostalgiques de la République.
Absolument.
Rêve de rétablir la République.
D'ailleurs, ils ont failli la.
Et la volonté pour ces empereurs d'assurer leur succession par la voie du sang. Et là, c'est une période intermédiaire.
Jean-Marc nous dit, c'est un tweet, à Rome, dans l'ancien quartier de la Subura, on raconte que le fantôme de Messaline rôde toujours à la recherche des amants d'un soir.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
L'impératrice Messaline et les femmes à scandale au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, la journaliste et historienne spécialiste de l'histoire des femmes Joël Chevet et le journaliste et historien Marc Fourny, auteur de 12 scandaleuses qui ont changé l'histoire chez Pygmalion.
Alors je lis dans cet ouvrage qu'en réalité l'impératrice dansait sur un volcan. Nous parlons là du grand amour qu'elle va éprouver pour Caius Silius, qui est son amant. Cet amour frénétique la rapproche peu à peu de l'abîme, tandis que l'ambitieux Silius se sent pousser des ailes. Pourquoi ne deviendrait-il pas empereur? Le vieux Claude est malade, il se plaint continuellement de douleurs à l'estomac si fortes qu'il envisage même le suicide. Âgé de 57 ans, il ne durera pas éternellement. Silius est consul désigné. Peut-être est-ce le moment de risquer le tout pour le tout? Il propose alors de s'unir avec Messaline. Il la protégerait ainsi de tout revirement politique et pourrait adopter Britannicus dans la foulée. L'impératrice hésite et on la comprend, qu'a-t-elle à gagner à cette affaire? Elle connaît son Claude mieux que personne et craint surtout d'être écartée brutalement par Silius une fois au pouvoir. Mais elle finit par céder et elle franchit le pas. C'est assez intéressant de voir que, bien sûr, nous connaissons, nous, la fin de l'histoire. Et si Caius Iulius était devenu empereur, il est très probable qu'on raconterait tout cela d'une façon très différente et que, pour le coup, Messaline passerait sans doute pour quelqu'un de très bien, Marc Fourny.
Tout à fait. Le problème de Messaline, si vous voulez, c'est que quand elle avait ses aventures amoureuses avec certains hommes, ses chevaliers, des sénateurs, les affranchis la soutenaient, il y avait une sorte de pacte tacite entre eux. Quand elle commence à se rapprocher du Sénat, qui est toujours l'ennemi public, l'ennemi numéro un, on va dire, des empereurs, là, les affranchis ont peur, parce qu'ils vont perdre leur prérogative, qui était celle des sénateurs autrefois. Et donc, elle va prendre un côté, elle donne un côté politique à sa fonction, qui n'est pas celle qu'on attend d'elle. Donc, elle va vraiment, toujours à cause de Britannicus, qu'il faut enraciner, qu'il faut préserver, qu'il faut soutenir, elle va se rapprocher des sénateurs, parce qu'elle sent que Claude, en effet, vieilli. Alors, est-ce que c'est une alliance politique plutôt qu'un mariage? En tout cas, les historiens sont évidemment partagés sur la question, mais en tout cas, les affranchis vont la lâcher. Là, à cause de ce, si vous voulez, de ce désir politique de Messaline, elle fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire à cette époque-là.
Pour ceux qui nous rejoindraient en cours, quand on parle des affranchis, nous parlons d'esclaves affranchis qui, en l'occurrence, constituaient autour de l'empereur et de l'impératrice une petite cour de, comment pourrait-on dire, de technocrates de l'époque.
Oui,
c'était des prétoriens, des fonctionnaires.
Des énarques.
Des énarques, si on veut.
Les marmousets.
Oui, élevés dans le sérail, en tout cas, pour entourer l'empereur sur le plan bureaucratique.
Ce qui veut dire que l'administration d'un côté, le Sénat de l'autre, fonctionnait quand même bien dans ces débuts de l'Empire romain. Les débauches au sommet, les massacres, les complots, les suicides de couloirs, finalement n'affectaient guère le grand fonctionnement de l'Empire, Joël Chevet.
Oui, sinon que les sénateurs, là, dans cette affaire, se sentaient quand même mis sur la touche. Ce qui explique d'ailleurs des réactions comme celle de Tacite ou comme celle de Suétone, qui appartiennent à cet ordre sénatorial et qui, du coup, estiment que cet empereur Claude n'accorde, ce que ne fera pas Trajan, qui fera beaucoup plus allégeance au Sénat. Et là, ça explique en grande partie ce regard très sévère porté sur ce règne qui ne met pas, évidemment, en valeur la classe sénatoriale et le rôle qu'elle estime avoir joué auprès du souverain. Donc là, ça explique beaucoup de choses aussi sur ces caricatures du couple. Alors par contre, le mariage, là, ça reste quand même un mystère. C'est quand même un des points quand même sur lesquels beaucoup se sont interrogés.
Il est cité partout, il a existé quand même ce mariage.
Comme vous le dites, il est attesté. Il s'est passé selon tout à fait les normes d'un mariage officiel. On a consulté les auspices. Ça s'est passé vraiment selon les cérémonies habituelles d'un mariage. Sinon, qu'on ne voit pas du tout, comme vous l'avez dit, quel intérêt pouvait avoir réellement Messaline dans cette affaire, sauf à envisager très rapidement la disparition de Claude, en effet, et où elle n'aurait plus été l'impératrice.
Ou alors,
ça reste un mystère.
Il y a des historiens qui parlent d'un acte d'amour insensé. Mais elle a été formée pour être impératrice, donc on la voit mal comme ça.
Formée pour être impératrice, c'est peut-être trop dire aussi. Nous n'en savons rien. Elle est d'une très grande famille, mais qui est récente, dont la puissance dans Rome à ce moment-là, c'est une famille qu'on voit apparaître vraiment à ce moment-là, qui n'occupe pas de grands postes de consul, etc. avant. Donc, a-t-elle élevé pour ? Il a eu trois autres femmes auparavant. Une qui est morte le jour du mariage, l'autre qu'il a répudiée pour mœurs légères. Mais alors que dire de Messaline dans ce cas-là ? Et la troisième qu'il aurait bien réépousée d'ailleurs après la mort de Messaline. Donc c'est quand même très curieux toute cette affaire.
Il va vivre combien de temps Claude encore après la mort de Messaline ?
Claude, alors éclairez-moi.
Il est tué par Agrippine.
Il est assassiné, mais je ne sais plus la date exacte. Mais très vite, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a déjà Néron dans l'affaire. Parce que la mère de Messaline a élevé Néron pendant qu'Agrippine était exilée. Donc là, il y a cette concurrence de Néron qui est là.
Il y a le mystère du mariage de Messaline et aussi le mystère de la mort de Messaline. Est-ce que ça n'a pas l'air un peu trop beau, ça ? On a l'impression que cette femme est tellement peu noble qu'on ne lui accorde même pas le suicide. Il faut que ce soit un garde prétorien qui vient lui donner le coup de grâce.
C'est quand même Tacite. Oui, mais on est encore dans les exemples-là.
Oui, puis de toute façon, quand on savait qu'il fallait se suicider, donc c'était, on vous tuait pas en principe. C'était la règle, c'était
le suicide, de se tuer soi-même.
Quand on était
pourquoi dit-on qu'elle
condamné.
Ne s'est pas tuée.
Mais pour mieux la discréditer.
Elle n'avait pas ce sang. Il y a un problème de sang dans cette histoire aussi. C'est que Claude et Messaline sont tous deux issus du sang d'Octavie. du sang directement d'Octavie, qui est la sœur d'Auguste. Et il fallait être du premier sang, du sang d'Auguste. Et Agrippine, elle sera du sang d'Auguste. Et elle sent bien, Messaline, que Agrippine reste un danger énorme pour son fils, parce que si jamais il y a ce mariage qui s'y allait répudier, et si Claude épouse enfin Agrippine qui dissent, elle, directement d'Auguste, il va avoir une notoriété beaucoup plus importante au niveau de la plèbe, il sera beaucoup plus populaire et il va asseoir beaucoup plus son pouvoir. Donc il y a ça, elle va se battre jusqu'au bout pour Britannicus.
Sans oublier le personnage de Domitia Lepida, la mère de Messaline, avec laquelle elle est brouillée. Et qui élève Néron. Donc là, on est quand même on est chez les Atrides, là.
On sent une certaine bienveillance chez vous, Marc Fournier. Et du reste, quand vous parlez des 12 scandaleuses qui ont changé l'histoire, avec une très jolie couverture représentant Joséphine Baker dans son célèbre costume à banane, n'est-ce pas, la revue nègre, quand vous parlez de ces scandaleuses, vous n'en parlez pas comme de femmes perdues de réputation, mais comme de femmes qui font changer les choses, en quelque sorte. On a l'impression que vous nous amenez à les aimer.
C'est-à-dire que j'ai choisi des femmes qui, justement, ont basculé du côté politique à un moment donné, et comme par hasard, à chaque fois qu'elles ont pris une initiative politique ou qu'elles ont essayé d'exister politiquement, eh bien, elles sont très rapidement recouvertes de boue. On les fait passer pour des scandaleuses, pour des libertines, etc. Et ça, c'est vraiment une constante dans l'histoire. Alors, c'est ça que j'ai essayé de montrer. Et ça va même jusqu'à la fameuse Olympe de Gouges. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec Messaline. Mais absolument, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même histoire. Mais d'un autre côté, c'est une femme qui, à un moment donné, sous la Révolution française, qui était réservée aux hommes,
Qui a eu des mœurs scandaleuses.
Qui a aussi été une courtisane. Et tout à coup, on a vu que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout vu ses écrits, mais on a pointé du doigt ses travers sa vie licencieuse.
Alors, vous parlez de la comtesse de la Motte, hein, cette célèbre femme escroc qui avait cette aventurière qui est au cœur de l'affaire du collier de la reine, bien sûr, de la duchesse de Berry, dont nous avons parlé à ce micro il y a quelques semaines seulement, de la célébrissime Mata Hari, de Wallis Simpson, évidemment. Bon. Mais ce qui est amusant, de Christine de Suède, formidable personnage.
Bien sûr, tout changé d'un coup,
mais il y en a trois, c'est-à-dire Gabrielle d'Estrée, Lola Montès et Wallis Simpson, qui justement ont bénéficié de la faiblesse de leur royal ou impérial amant. C'est quand même intéressant. On a l'impression que les grandes scandaleuses finissent toujours par mettre la main sur un puissant un peu fantoche.
Ce sont des ambitieuses. Donc forcément, elles vont choisir, si j'ose dire, le bon cheval pour arriver plus vite. Et donc, c'est n'est pas étonnant qu'on les retrouve avec des hommes à côté qui sont des partenaires, évidemment, mais pour aller plus loin, plus vite, et évidemment qui sont moins compliqués à gérer, on va dire.
Oui, sinon qu'en ce qui concerne la plupart des femmes dont nous pouvons parler dans les siècles passés, elles ne choisissaient pas leur mari. Et c'est le cas de Messaline. Messaline n'a pas choisi Claude parce qu'il était faible. Elle était, on pense, très
elle
jeune
profité,
de toute façon à ce moment-là. Elle en a profité, mais certainement pas plus que d'autres, puisque là on est en pleine caricature. Hein. Mais en ce qui concerne en tout cas le fait qu'elle soit devenue emblématique de la nymphomanie et de l'usurpation du pouvoir d'un homme, on voit très bien ce que ça a pu donner dans les récupérations de l'image, et je pense en particulier à Marie-Antoinette, dont dès le départ elle est qualifiée de Messaline française.
Oui, la Messaline française, oui, bien sûr. 12 scandaleuses qui ont changé l'histoire, c'est le recueil de Marc Fourny, publié chez Pygmalion, avec Charles Dupéché, donc, j'imagine.
Absolument.
Charles Dupéché que nous saluons, puisqu'il est en train de tirer sa révérence après avoir fait de cette maison Pygmalion une très belle maison de référence pour les amoureux de l'histoire. Vous connaissez bien ces femmes scandaleuses, vous, évidemment, Joël Chevet, vous avez écrit les grandes courtisanes, hein, c'était chez First.
C'était également chez First, pardon.
Ouais, c'était
le précédent chez Pygmalion.
C'était Marie-Thérèse d'Autriche.
C'était Marie-Thérèse d'Autriche, pardon.
L'épouse de Louis XIV.
Oui, tout
très
à fait.
Intéressante étude sur une reine totalement oubliée
aujourd'hui. Voilà, et qui va être republiée d'ailleurs cette année.
Merci beaucoup à tous les deux
d'avoir
un petit peu rectifié les choses. Et je vous sais gré de n'avoir pas pour autant retiré tout son soufre à Messaline, parce que Messaline sans le soufre, qu'est-ce qui resterait ?
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Chantal, qui via la page Facebook de l'émission vous demande quelle est l'origine du nom Acadie donné à cette partie des provinces maritimes du Canada.
C'est une question qui m'intéresse particulièrement en tant que Poitevin. Vous savez, moi, quand j'étais petit, on m'emmenait voir les maisons des Acadiens rapatriés après le traité de Paris en 1763. Ça nous entraînerait sur un autre terrain. Alors, ce qu'on appelle l'Acadie, c'est cette province francophone du Canada, hein, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard. C'est la première colonie française d'Amérique du Nord qu'on a appelée, alors de tous les noms, l'Arcadie en un seul mot, l'Acadie en un seul mot, Cadie même, pourquoi pas. Elle a été découverte en 1524 pour le compte de la France par le navigateur Giovanni da Verrazzano et on l'a nommée à l'époque Arcadie. C'est Verrazzano qui l'a appelée Arcadie. Vous savez, l'Arcadie, c'était la référence directe à la région de la Grèce antique qui se situait au centre du Péloponnèse. Une région particulièrement riche, une région pastorale aux herbes grasses, idéalisée par le poète Saint-Nazaire en 1485 dans un célèbre poème qui justement s'appelait Arcadie. Et on avait fini par faire de cette Arcadie le symbole d'une sorte de Golconde, de région particulièrement prospère, verdoyante, etc. Il n'est donc pas étonnant que Verrazzano ait appelé sa province Arcadie. Alors avec l'accent peut-être ou avec l'habitude, on s'est mis à dire Acadie. Ça, c'est une des explications, une des origines. Mais il faut savoir qu'il y a une autre étymologie pour ce terme d'Acadie, pour désigner la belle province. C'est une explication autochtone. Ce sont les Micmac. Les Micmac, c'est une tribu indienne, hein, vous savez, qui fait partie du peuple algonquien. Et ces Micmac avaient pour habitude de désigner les lieux d'abondance, justement, un peu les oasis d'Amérique du Nord, si vous voulez, du nom de Cadie. Et c'est là, ça, ce serait l'origine du mot Cadie, voire l'Acadie, comme je vous disais en un seul mot, et les Acadiens pourraient bien être les descendants de cette région. Alors, est-ce que l'Acadie s'appelle ainsi par référence tout à fait antique à la Grèce éternelle, ou parce que des Indiens du coin ont voulu l'appeler de la sorte, je vous laisse choisir la solution qui vous paraîtra la meilleure. En tout cas, à mon avis, les deux se complètent assez bien.